Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien vous fasse. Comme l'affirme l'une de nos invitées, Camille Froidevaux-Maîtris, les seins sont l'objet de fantasmes et d'injonctions. La poitrine féminine serait la grande oubliée des luttes féministes. Cette poitrine à la fois vectrice d'assignation, d'injonction, mais également d'affirmation et d'émancipation. Je vous propose ce matin d'explorer les divers enjeux des seins. On se demandera comment s'est imposée, par exemple, la norme de la poitrine en demi-pomme, haute et ferme. Pourquoi certaines femmes complexes éprouvent de la honte à cause d'une poitrine jugée trop petite ou trop imposante? D'ailleurs, qui a imposé des normes esthétiques en la matière? Après une mastectomie, pourquoi certaines femmes refusent la reconstruction et d'autres franchissent le pas? Zone érogène essentielle, pourquoi les seins ne sont-ils pas toujours aux avant-postes du plaisir et de la sexualité féminine? Pourquoi certaines acceptent d'allaiter et d'autres pas? Pourquoi certaines refusent de porter des soutiens-gorge ou alors décident d'entreprendre une chirurgie esthétique? En tout cas, ce matin, les femmes reprennent le pouvoir sur leurs seins en se dégageant des normes et des injonctions. N'hésitez pas à intervenir, à poser vos questions ou à témoigner au 01 45 24 7000 ou sur l'appli France Inter. Bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rébéi, Grand Bien vous fasse.
Il y a le bon sein, c'est-à-dire le sein nourricier et le sein érotique. Et de l'autre côté, il y a le mauvais sein, le sein d'Ève qui tente les hommes. Et si vous voulez, souvent symbolisé en sein malade ou en sein agressif. Je vois une division nette dans la représentation du sein, comme il y a dans la représentation de la femme.
La grande historienne américaine Marilyn Yalom en 2010 sur France Culture. Bonjour Camille Froidevaux-Maîtris.
Bonjour.
Vous êtes philosophe et professeur de sciences politiques à l'université de Reims, Champagne-Ardenne, et vous publiez demain en poche chez Point un essai passionnant, Sein, en quête d'une libération, initialement publié chez Anna Moza. Bonjour Isabelle Motreau.
Bonjour Aline.
Vous êtes directrice de la rédaction du mensuel Cosette et vous publiez en kiosque un hors-série spécial sein, les nénés dans tous leurs états.
Exactement. Pas trop difficile à retenir.
Exactement. Bonjour professeur Maurice Mimoun.
Bonjour.
Vous dirigez le service de chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique de l'hôpital Saint-Louis à Paris. Et vous êtes également l'un des plus grands spécialistes mondiaux de la chirurgie des grands brûlés. Alors, le mot sein vient du mot sinus, qui voulait dire pli de la toge et au figuré poitrine. Le Robert nous dit que c'est la partie antérieure de la poitrine, synonyme gorge, Robert, Lolo, Néné, Nibar. Alors Camille Froidevaux-Maîtris, les seins sont à la fois considérés comme le symbole de la maternité, le signe privilégié de la féminité et l'antichambre de la sexualité.
Oui, tout ça à la fois. Absolument. Les seins, en fait, condensent, je dirais, la condition incarnée qui est celle des femmes. Ils sont à la fois l'emblème, mais aussi la preuve de la féminité, alors que j'entends dans une acception un peu négative, c'est-à-dire essentiellement comme renvoyant à l'idée d'une disponibilité corporelle. Et les seins des femmes qui sont au devant d'elles, hein, je veux dire physiquement, c'est évident, eh bien, ils signifient aux yeux des autres et aux yeux de la société cet enfermement des femmes dans un corps qui a été historiquement objectivé et aliéné. Et donc, ils condensent un peu cette condition. Alors, sur un versant négatif, mais aussi, bien sûr, il y a un versant positif de libération. On aura l'occasion d'y revenir.
Et pourtant, s'il existe bien un organe qui n'appartient pas aux femmes, c'est leur sein. Expliquez-nous cet apparent paradoxe dont parle notamment l'historienne Marilyn Yalom, qui a écrit sur le sein.
Eh bien, lorsque les seins apparaissent sur les bustes des filles, ils leur signifient à la fois la sexuation féminine de leur corps, mais simultanément, immédiatement aussi, la sexualisation de ce corps. C'est-à-dire que les filles vivent leur puberté, contrairement aux garçons, sans pouvoir esquiver en quelque sorte ce fait que leur corps devient un corps sexuel, et ce sont les seins qui le signifient. Et donc elles apprennent très vite à entrer dans cette condition objectivée et à devenir un corps sexuel qui se présente à l'avant avec leurs seins.
Isabelle Motreau.
Oui, tout à fait. On est signalé par l'apparition de ces sphères rebondies ou pas, hein, ça dépend. Et effectivement, c'est l'enjeu de toutes les de toutes les injonctions, j'allais dire, mais aussi de toutes les socialement, il y a vraiment un poids sur qui pèse hélas sur ses seins, l'allaitement, la sexualité, voilà, c'est vraiment un enjeu énorme en fait.
Alors vous le dites, hein, Camille Froidevaux-Maitry, les seins sont le lieu de l'aliénation des femmes, mais également vecteur d'émancipation. On l'a vu notamment dans les années 1970. Mais pour vous, la question des seins reste aujourd'hui en retrait, alors que cette partie du corps concentre de nombreuses questions. Oui. C'est l'organe oublié des aspirations et des luttes féministes aujourd'hui ?
Alors, un peu moins maintenant, hein, mon livre est paru en 2020, mais il se passe beaucoup de choses dans le champ féministe et à toute allure. Mais disons qu'il y a eu une focalisation, en effet, hein, depuis quelques années, sur des thématiques génitales, avec beaucoup de combats liés aux règles, aux organes génitaux, à la sexualité, aux violences sexuelles, etc. Et quand j'essayais de comprendre ce mouvement MeToo que je propose d'interpréter comme un des moments de cette bataille de l'intime, ça m'a frappé d'observer en effet que les seins avaient été un petit peu oubliés. C'est ce qui m'a d'ailleurs conduite à faire ce livre sur les seins. Mais c'est quelque chose qui est fondamental dans le féminisme, parce que les seins, dans leurs deux fonctions, qui sont des fonctions contradictoires, mais qui se réunissent dans cet organe, qui sont les fonctions sexuelles et maternelles, eh bien, ils signifient aussi le socle même du système patriarcal, parce que c'est parce que les femmes ont été enfermées dans ces deux fonctions sexuelles et maternelles depuis à peu près toujours, qu'elles ont été assignées et qu'elles ont dû, pendant très très longtemps, rester enfermées, ou en tout cas symboliquement, dans la sphère domestique.
Et vous le montrez bien, de la métamorphose à la puberté, à l'invisibilisation des seins à la vieillesse.
Oui, c'est quelque chose qui me frappe, c'est-à-dire que, alors les seins, on les voit, les seins des femmes, on les voit beaucoup, mais on voit en fait qu'une forme de sein, la forme idéale, la demi-pomme.
La demi-pomme.
Voilà, que vous évoquiez.
La fameuse.
Mais les vrais seins des femmes, on ne les voit pas. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle j'ai voulu faire le portrait de seins de ces 42 filles et femmes que j'ai rencontrées. La plus jeune à 5 ans, la plus âgée 76 ans, parce que je voulais montrer cette diversité, cette pluralité des formes, des couleurs, mais aussi des expériences vécues de cette poitrine.
Le regard du chirurgien esthétique.
Alors je suis un peu gêné parce que il y a pas les seins sont les avis des femmes sur les seins sont tellement pluriels, il y a pas un sein et puis est-ce que c'est le symbole de la féminité? Oui, pour certaines, pour d'autres pas. Une femme n'est pas un sein, c'est ça qu'il faut dire déjà au départ. Et ensuite les goûts des femmes sur leurs seins sont tellement variés, tellement différents. Pour le même sein, on peut avoir des demandes en chirurgie esthétique qui sont complètement opposées, que voilà, il faut pas enfermer le sein et la femme dans une catégorie. Ça, c'est déjà très, très important.
Oui, mais ce que vous dites révèle précisément à la fois la pluralité, mais aussi la variabilité. C'est quelque chose qui m'a vraiment frappée. C'était un étonnement dans mon enquête de m'apercevoir, en fait, que les seins des femmes ne sont jamais les mêmes. C'est-à-dire à l'échelle de l'existence, bien sûr, mais aussi selon le temps qu'il fait, selon...
À l'échelle d'une semaine, d'un mois.
Absolument, d'un cycle, bien sûr.
Cycle.
Mais aussi selon l'état d'esprit, selon les événements de la vie. Et cette variabilité, je crois que c'est une chance, c'est quelque chose qu'il faut investir.
C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je pense que c'est aussi un enjeu du féminisme. C'est parce que ils peuvent montrer ou afficher des slogans, j'allais dire, contradictoires. C'est-à-dire on peut les revendiquer comme des armes presque, comme les femmes par exemple. Et puis on peut aussi estimer que bah non, pas du tout. Nos seins nous appartiennent et on n'a pas envie de les montrer. Et non, on n'a pas envie de porter de soutien-gorge comme la société nous le demande, etc. Donc il y a énormément de pouvoir de communication, je dirais, avec les seins.
Alors il y a une chose passionnante dans votre enquête, Camille Froidevaux-Maitry, c'est que vous montrez que les femmes gardent en mémoire les étapes de la naissance des seins. Vous écrivez même que c'est un événement historique pour les femmes. C'est une transformation physique et existentielle.
Oui, et existentielle, et sociale, et politique. C'est-à-dire que quand les seins apparaissent, alors je suis pas certaine qu'on s'en souvienne si bien que ça, sauf quand il se passe quelque chose qui vient nous signifier que les seins.
On se souvient des étapes.
Voilà, des étapes, et surtout on sait très bien que dans une vie de femme, les seins remplissent des rôles, des fonctions, là aussi qui sont changeantes, et c'est quelque chose qui me semblait important que de permettre aux femmes de partager ces expériences vécues des saints, parce que entre leur apparition qui est synonyme souvent un peu d'insatisfaction, ça c'est quelque chose que j'ai repéré avec un peu d'effroi, je pensais un peu naïvement que les jeunes filles d'aujourd'hui avaient un rapport à leur corps et à leur poitrine plus peut-être plus simple et qu'elles avaient des outils et ils existent bel et bien hein, pour pouvoir vivre cette sexuation de façon un petit peu plus épanouie et sereine. Hélas, cette logique patriarcale très très comment dire très très efficace de la compétition, la comparaison, l'évaluation perpétuelle des filles et des femmes entre elles fonctionne encore à plein.
Professeur Mimoun, beaucoup de jeunes filles viennent vous voir alors, pour une augmentation mammaire ou
évidemment il y a plein de jeunes femmes viennent et plein de jeunes et beaucoup de jeunes filles viennent aussi. Alors il faut les tempérer. Encore une fois, il va y avoir des jeunes filles qui vont attendre que le sein pousse et le sein ne pousse pas. Alors pourquoi leur féminité passe par les seins et quand le sein ne pousse pas, elles l'ont dans le cerveau. Elles l'ont pas sur le corps et elles souffrent énormément. Alors il faut tempérer ces choses-là. Mais si on est de manière factuelle, si ces jeunes femmes, à un moment donné, en ayant bien discuté, en ayant attendu qu'elles aient un âge suffisant, on met des prothèses, le lendemain, elles vous disent « Docteur, c'est comme si j'avais toujours été comme ça ». C'est quand même absolument incroyable. Et j'en tire la conclusion qu'elles avaient... C'est pas une question de féminité, mais ça va plus loin. C'est un sein qu'elles avaient construit dans leur cerveau qui existe, et elles étaient amputées du sein dans leur corps, dans ce qui a poussé.
Oui,
mais c'est pas du tout une généralité pour tout le monde, hein. Et voilà, c'est surtout ce qu'il faut dire.
Vous le dites très joliment, mais je crois que c'est un peu une généralité dans le sens où il y a quelque chose de l'ordre de l'identité qui se noue dans la construction du corps sexué féminin avec les seins. Alors certaines jeunes filles qui n'ont que très peu de seins peuvent le vivre tout à fait sereinement. D'autres, effectivement, les investissent de façon beaucoup plus intense. Mais je crois que c'est un peu l'enjeu des luttes actuelles. C'est vraiment de faire de nos corps, dans toutes leurs dimensions, et là aujourd'hui on parle des seins, mais le lieu en fait de notre identité, parce que nous sommes nos corps. Et tout notre horizon, c'est de passer des corps-objets au corps-sujet. Et dans cette histoire-là, eh bien, ce que nous faisons et ce que nous pensons de nos seins, c'est très important.
Oui, il y a des jeunes femmes aussi, des jeunes filles qui détestent leurs seins et qui veulent les réduire absolument énormément. Ça pose même la question du genre et de la différence femme-homme. S'il n'y a pas une dichotomie comme ça, noir-blanc. Et on voit selon les personnes, alors les êtres, une sorte de progression et de variabilité énorme.
Le problème, pour reprendre ce que disait Camille Freud-Vométry, c'est que en fait, il y a aussi beaucoup d'injonctions dans ce qu'on voit autour de nous. Comment les femmes sont représentées depuis la nuit des temps, hein, avec des rotondités partout, enfin principalement à deux endroits, mais qui sont bien là, quoi. Je veux dire, c'est le symbole même des femmes, et c'est évidemment très dur d'en sortir et de se vivre autrement que avec ce schéma préconçu, quoi.
Une anecdote personnelle, Camille Freud-Vométry. Un jour, vous vous rendez dans une boutique de lingerie pour acheter un soutien-gorge à votre fille qui était alors âgée de 12 ans. Vous vous adressez à une vendeuse et que se passe-t-il ?
Oui, alors j'y allais toute heureuse dans cette espèce de petit rituel de passage, de passation, de ce que c'est que de vivre dans un corps féminin. Et puis, en fait, ça s'est transformé en baptême du feu féministe pour ma fille, puisque le seul et unique soutien-gorge qu'on lui a proposé, c'était un mini soutien-gorge coquet, hein, vous savez, ces soutiens-gorges maintenant qui ont envahi de façon industrielle et ravageuse, je trouve, le marché de la lingerie, parce que, en fait, ce qui m'a révoltée, c'est qu'on lui signifiait déjà, à peine ses seins apparaissaient, qu'ils étaient pas suffisamment gros, pas suffisamment fermes, pas suffisamment ronds. Et la vendeuse a eu beau m'expliquer que cette coque de mousse était amovible, moi j'étais absolument révoltée. Et on est sorti sans l'acheter, évidemment, ce soutien-gorge. Mais en revanche, on a eu une belle discussion sur le sujet.
Alors cette anecdote rappelle évidemment l'injonction d'une norme, hein, les seins en demi-pomme qui tiennent tout seuls. Comment est née cette norme? Elle est née à l'Antiquité. Les beaux seins étaient comparés à des pommes, c'est ça ?
Alors, tout au long de l'histoire, en effet, il y a cet idéal esthétique de la demi-pomme, sous l'Antiquité, mais aussi à d'autres périodes historiques, avec parfois des petites ruptures, des moments où les seins deviennent davantage gros, davantage nourriciers que sexuels. En fait, la demi-pomme, ça enferme le sein dans sa dimension sexuelle, la seule qu'on puisse représenter. Quand la dimension maternelle ou celle de l'allaitement, qui renvoie au gros sein de la femme allaitante ou de la nourrice, était considérée de façon négative. D'ailleurs, très très longtemps, les femmes des milieux aristocrates et bourgeois n'allaitaient pas parce que c'était considéré comme quelque chose d'indigne qui allait d'abord abîmer leur poitrine et puis surtout qui les enfermait dans une fonction qui n'était pas valorisée.
Et puis vous l'avez dit, Isabelle Motreau, les images publicitaires, les médias, le cinéma, la pop culture imposent des normes mammaires à nos imaginaires. Près de nous, dans les années 80-90, on se souvient des chanteuses Samantha Fox, Sabrina, des actrices d'une actrice comme Pamela Anderson, hein, il y a aujourd'hui les filles de la télé-réalité, ce sont des imaginaires très très puissants, Maurice Mimoun.
Oui, moi je suis un peu plus nuancé, je pense qu'il y a, sur le sein justement, actuellement il n'y a plus de normes.
Ah.
Il y a des femmes, enfin, si, il n'y en a qu'une, d'ailleurs, on me dit toujours, est-ce que vous connaissez, je serai spécialiste de la beauté, moi je ne suis pas spécialiste de la beauté, j'entends ce que les femmes et les hommes me disent là-dessus, il y a une unité mondiale, c'est qu'on n'aime pas ce qui chute. Donc la ptose, c'est-à-dire la chute du sein, ça, c'est unanimement détesté. Mais sinon, le volume, la forme, il y a beaucoup de femmes qui veulent pas pomme, qui veulent poire, parce que c'est plus naturel. Et si on voit le sein de 1960 représenté et le sein d'aujourd'hui, le sein naturel, c'est un sein prothésé. C'est-à-dire que les femmes vont vous dire « j'ai un sein naturel » et très souvent elles vous montrent une image de sein. Je dis « madame, mais il y a une prothèse sous ce sein ». Donc la norme a changé du fait de cette chirurgie esthétique.
Camille Frotte-Vométrie.
Oui, alors écoutez...
Plus de normes ? Il n'y a plus de normes ?
Je ne sais pas. Enfin, en tout cas, on est dans une dynamique où il s'agit de faire disparaître les normes. Donc, ce que vous dites est plutôt rassurant. Mais néanmoins, je crois quand même... Alors, quand vous dites la ptose, effectivement, en vous écoutant, je me disais, j'imagine mal une femme demander un sein un peu lourd, un peu tombant. Ce qui compte, c'est l'image qui convient. Et ce qui est important de dire aussi, c'est que... parce que j'ai rencontré deux femmes qui se sont... fait reconstruire les seins, une pour les diminuer, l'autre pour les augmenter. Et dans les deux cas, ces opérations ont été transformatrices, mais à un niveau existentiel. C'est-à-dire que ces femmes ont pu enfin vivre heureuses. Et notamment, c'est un paradoxe que je voulais juste rappeler, c'est que celle qui s'est fait augmenter les seins l'a fait pour elle-même d'abord, pour réparer quelque chose d'un petit peu violent qui lui était arrivé. Et c'est quelque chose qui lui a permis ensuite d'oser enfin franchir le pas de l'amour avec les femmes qui était voilà, son rêve de toujours, mais dans... qu'elle n'avait jamais pu s'autoriser à vivre.
Est-ce qu'on en finira un jour avec cette honte ou ces complexes par rapport à des seins jugés trop petits, trop gros ?
La honte, c'est un sentiment qu'une philosophe américaine, Sandra Lee Bartke, qualifie de spécifiquement féminin et qu'elle définit comme un sentiment d'inadéquation qui fait que les femmes se sentent toujours insatisfaites d'elles-mêmes, toujours imparfaites. Et je considère que c'est vraiment un des nœuds sur lesquels il faut absolument travailler, notamment dans le champ féministe, c'est-à-dire comment faire pour que les femmes se débarrassent de ce fardeau de la honte.
Isabelle Motreau.
Mais on peut pas mieux dire. C'est exactement ce à quoi travaille le féminisme aujourd'hui. C'est de pulvériser toutes ces normes pour justement arriver non pas à un corps qui serait idéal, idéalement plaisant pour chacun ou chacune, mais pour ne plus avoir ces complexes, parce qu'en fait les complexes, les femmes les ont, les hommes aussi. Enfin, je veux dire, on est tous incarcérés, j'allais dire, dans des espèces d'armures de complexes, quoi.
Professeur Mimoun, comment vous les accueillez, ces complexes, cette honte féminine, dans le secret de votre cabinet ?
Moi, j'ai un rôle de médecin. Donc, j'ai un rôle d'écoute. J'ai une personne devant moi et je dois lui rendre service. Si je le perds, elle doit être mieux après qu'avant. Après, en tant que citoyen, je peux avoir un avis, c'est un autre débat. C'est un débat, un combat qui est beaucoup plus long. Je peux pas dire à la personne qui est en face de moi, voilà, vous obéissez à la norme, etc., on va combattre. Dans 20 ans, vous serez mieux. Il y a un degré de semi-urgence dans ce qu'on doit faire. Donc, mon travail, c'est d'abord l'écoute. Et en matière de sein, c'est vraiment très, très, très varié. Vous savez, le sein, c'est l'objet de tous les désirs, de toutes les peurs. C'est vraiment quelque chose d'énorme. La sexualité, le schéma corporel, la maladie, la malformation, la féminité pour certaines, le genre. Donc tout ça, ça se croise de manière très différente chez les femmes. Et le volume du sein, la forme du sein, la taille de... Et puis c'est très complexe, c'est un organe à géométrie variable, comme vous avez dit. Donc la taille de l'aréole, la taille du téton, tout ça, c'est énorme. La sensibilité du sein, on est très très étonné de voir la place de la sensibilité du sein chez la femme, qui est extrêmement variable, et ce qu'elle est capable de sacrifier parfois pour son esthétique.
Oui, je ne sais pas si on aura l'occasion d'y revenir, mais c'est tellement important de dire que les seins sont aussi un organe de plaisir.
À la fin de l'émission.
D'accord.
Dans un instant, on s'intéresse à celles qui ne veulent plus porter de soutien-gorge, à la reconstruction mammaire après un cancer, ou encore à celles qui refusent d'allaiter. Sans oublier, on l'a dit, la question du plaisir. Ce sera juste après Chet Baker, The More I See You, à 10h25.
The more I see you, the more I want you. Somehow this feeling just grows and grows. With every sigh I become more mad about you, more lost without you. And so it goes. Can you imagine how much I love you? The more I see you, as years go by, I know the only one for me can only be you. My arms won't free you, my heart won't try.
Hommes avaient ses seins rebondis, ce sillon mammaire impeccablement dessiné.
Grand bien vous fasse.
Ces tétons qui pointent à la moindre émotion, à la moindre brise.
Ali Rebi.
Ces tétons que l'on a envie de mordiller.
Sur France Inter.
C'est ridicule, Lucien.
Oui.
Calmez-vous, SS117. Et ce matin, on s'intéresse aux seins sous toutes ses formes, à des injonctions, des poitrines fermes en demi-pomme, à la reconstruction mammaire en passant par l'allaitement, sans oublier le plaisir. Questions et témoignages au fil de notre conversation au 01 45 24 7000, sans oublier l'appli France Inter. Alors, on va évoquer là les fonctions symboliques du sein, pas seulement symboliques, le sein nourricier. Avec vous, Didier Nourisson, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur émérite d'histoire contemporaine à l'université Claude Bernard à Lyon 1. Vous avez publié récemment Du lait et des hommes chez Vendémiaire. Alors, le sein nourricier irrigue toutes les civilisations, bien évidemment. Hein.
Ah oui, absolument. L'histoire du sein se confond avec l'histoire tout court. en suivant un balancement, si j'ose dire, de deux fonctions, la fonction de séduction et la fonction de lactation. Mmh. J'ai envie de prendre un seul exemple, d'abord, du 15e siècle, qui est celui d'Agnès Sorel,
oui,
qui était la favorite du roi de France, Charles VII, et qui a été surnommée la Dame de Beauté, parce qu'elle avait une magnifique poitrine que Jean Fouquet a montré plus d'une fois, et peut-être aussi parce qu'elle avait une superbe peau, puisqu'elle prenait des bains de lait d'ânesse tous les jours. Alors, cette Agnès Sorel, donc, a une vie très courte. Elle a quand même donné trois filles à Charles VII, qu'elle a peut-être allaité, l'histoire ne le dit pas, mais elle a fini en état, à 28 ans, en état de vierge allaitante, paradoxalement, comme si Jean Fouquet, dans son ultime tableau, avait voulu la représenter dans cette fonction maternelle et magnifique, et la magnifier par la même occasion.
Et, donc, en Occident, Didier Nourisson, oui, hein, vous le dites, pendant longtemps, l'allaitement a été valorisé d'un point de vue religieux. Qu'est-ce qui se passe à la Renaissance, dans les couches sociales les plus élevées, chez les Françaises et les Italiennes, notamment elles préfèrent ne pas allaiter, c'est ça, et envoyer leur bébé en nourrice à la campagne, c'est ça?
Alors, oui, ça commence comme ça. L'activité de nourrice est une activité extrêmement ancienne. On la retrouve de l'Antiquité, hein, pour nourrir les enfants de l'aristocratie. Mais on le voit à nouveau à la Renaissance, au moment même, d'ailleurs, où les médecins, les humanistes médecins, valorisent parfaitement l'allaitement maternel, donc un peu en paradoxe par rapport à cette injonction, en quelque sorte, médicale.
Isabelle Motreau, dans le hors-série de Cosette, hein, vous proposez un papier très intéressant sur les nourrices du Morvan envoyées dans la bonne société, puis dans la haute société au 19e et 20e siècle.
Oui, hein. Oui, c'est un papier d'Alison Terrien qui est vraiment extraordinaire, ce papier, parce qu'il nous révèle des choses un peu inconnu. Il y a eu une mode des Morvandelles, figurez-vous. Mmh. Alors les Morvandelles, c'était des nourrices du Morvan qui étaient connues pour être très belles, très bien nourries, et qui avaient un lait qu'on goûtait, figurez-vous, parce que il fallait goûter le lait. Hein. Alors qui s'en chargeait? Alors souvent c'était l'homme de la famille. Alors on ne sait pas comment. Pour choisir des nourrices qui allaient donc nourrir les rejetons très important de ces familles bourgeoises et aristocratiques. Et donc, c'est peu à peu, il y a eu cette mode, la nourrice, il fallait qu'elle soit morvandelle parce que c'était les meilleures. Et donc, c'était une vie extraordinaire parce que ces jeunes femmes qu'on recrutait dans des hameaux, donc dans le Morvan, d'un coup, elles avaient une vie formidable. Elles étaient très bien payées, elles étaient habillées sur mesure de vêtements, une espèce de costume traditionnel, vraiment de belle facture. Et puis elles étaient bien nourries, forcément, puisqu'il fallait bien nourrir les rejetons. Et donc c'était une vie qui leur rapportait beaucoup d'argent, qui souvent leur permettait de revenir au village avec de quoi bâtir des maisons qu'on appelait des maisons de lait. Incroyable.
Didier Nourisson.
Oui, alors je voulais réagir et rebondir en quelque sorte sur ces remarques des nourrices morvandaises, très bel exemple, mais exemple général. Hein. On trouve des nourrices en Normandie, on trouve des nourrices dans la région lyonnaise, etc. Effectivement, je crois que c'est un phénomène lié à la révolution industrielle, très nettement à partir du 19e siècle. C'est la pauvreté finalement qui se généralise, qui fait que les femmes vont souvent à l'atelier, à l'usine, que certaines essayent de s'en sortir par la prostitution, c'est-à-dire en vendant leur sein et leur corps aux hommes, et puis aussi par la vente de lait, en quelque sorte, par le biais du nourrissage. Alors, soit à domicile, c'est-à-dire chez les bourgeoises, ou chez elles, comme dans le Morvan, effectivement, où on voit beaucoup de cas. Et alors, ça a donné lieu à un énorme scandale, d'ailleurs, ce qu'on a appelé le scandale des nourrices, c'est qu'effectivement, beaucoup d'enfants ainsi transportés, ainsi ballottés, j'allais dire d'un sein à l'autre, eh bien, sont décédés. Donc, une mortalité infantile extrêmement élevée au milieu du 19e siècle.
Isabelle Motreau.
Oui, il y a une face sombre hein, à toute cette histoire, c'est que les nourrices, effectivement, certaines avaient, évidemment, un enfant, puisque pour avoir du lait, elles avaient un enfant, et qu'elles quittaient pour devenir donc nourrice à domicile. Et ces enfants étaient nourris un peu à la va comme je te pousse, parce qu'ils restaient parfois avec du lait de vache, et donc ils mouraient. Et souvent, on ne leur disait pas, parce qu'on avait l'idée à l'époque que une mauvaise nouvelle ou un mauvais état d'esprit pouvait gâter le lait. Et donc, ces pauvres femmes revenaient 2 ans plus tard, c'était là à peu près le temps qu'il fallait, et découvraient que leur enfant à elle était décédée.
Merci beaucoup Didier Nourisson pour cet éclairage historique. Alors Isabelle Motreau, l'allaitement progresse globalement en Europe hein, aujourd'hui. Oui. Dans les pays scandinaves, plus de 95% des enfants sont allaités. En France, depuis la seconde moitié des années 2000, 66% des enfants sont allaités à la naissance. Il est autant recommandé que critiqué cet allaitement. L'OMS recommande tout de même un allaitement maternel exclusif jusqu'à 6 mois et une poursuite de l'allaitement jusqu'à 2 ans en plus d'une nourriture de table.
Oui, alors ce sont des chiffres qui effarent beaucoup de féministes ou même de non-féministes, hein, mais qui disent que nourrir un enfant 6 mois, c'est pas évident du tout. Enfin, faut pouvoir le faire, faut pouvoir arrêter de travailler, etc. Puisque dans nos sociétés, rien n'est fait pour allaiter au travail. Enfin, on peut dans certaines sociétés, mais c'est quand même très rare. Donc voilà, il y a des choses qui sont contestables comme ça. Effectivement, l'allaitement n'est comment dire obligatoire que dans un seul cas. En réalité, c'est le cas des enfants prématurés. Oui. Sinon, après, c'est un peu bon vouloir de chacun chacune.
Et pourquoi d'ailleurs, Camille Froidevaux-Métrie, certaines femmes refusent d'allaiter? Quels sont les arguments des femmes que vous avez notamment interviewées dans votre livre.
D'abord, la première chose, c'est que c'est pas facile pour elles de tenir cette position hein, aujourd'hui. Bah, effectivement, l'allaitement est en vogue. Oui. Ça ramène à cette. Il y a deux types d'arguments, mais qui renvoient toujours à cette question de la dualité sexuelle maternelle. Il y a des femmes qui souhaitent ne pas allaiter pour pouvoir partager cette fonction nourricière avec le père de l'enfant. Et si par ailleurs, ça leur permet de continuer d'investir leur sein dans leur dimension sexuelle de lieu de plaisir, ça leur va très bien. Et puis il y a des femmes qui considèrent aussi que elles travaillent, elles ont une vie bien remplie et que c'est aussi une charge dont elles veulent bien se passer. Moi je trouve que ce qui est très important et on l'oublie un petit peu trop, c'est que pour toutes les questions corporelles, quelles qu'elles soient et en l'occurrence ici celle de l'allaitement, dans une logique et une cohérence féministe, ce qui doit être possible, c'est l'ouverture maximale des choix.
Et on n'a pas à juger des femmes.
Et que tous les choix sont légitimes.
Elles ne refusent pas d'allaiter. Elles ne veulent pas allaiter.
Vous avez raison.
C'est ça. Il y a des femmes qui choisissent. Mais je crois que maintenant, oui. Alors, vous les trouvez coupables, celles qui ne veulent pas allaiter. Moi, je trouve moins. Il y a surtout des femmes qui regrettent. Parfois, alors il y a des femmes qui ne veulent pas allaiter, et il y a des femmes qui regrettent de ne pas pouvoir le faire. Il y a des femmes qui s'imposent de ne pas le faire pour des raisons professionnelles. Puis il y a des femmes qui veulent allaiter des temps inouïs. J'ai vu des femmes qui allaitaient pendant 2-3 ans. Donc là aussi, il y a une variabilité qui est énorme.
Alors certaines femmes refusent d'allaiter et d'autres refusent de porter des soutiens-gorge. Nous accueillons Gala Avanzi. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour, vous êtes adepte du mouvement Nos Bras. Bras en anglais signifie soutien-gorge. Vous avez publié Nos Bras, ce que ma poitrine dit de moi. Pourquoi refusez-vous le soutien-gorge ?
Alors, c'est pas vraiment un refus, mais enfin, c'est quelque chose de très personnel. Pour ma part, j'ai arrêté de porter des soutiens-gorge pour des raisons de confort à la base. Mmh. Et puis petit à petit, en fait, je me suis rendu compte que ça m'avait permis de m'émanciper des dictats, des complexes. Et j'en ai retiré que des bénéfices.
Expliquez-moi pourquoi ce n'est pas un refus.
Parce qu'en fait, je le rejette pas en bloc.
D'accord.
Du coup, le soutien-gorge, il peut vraiment être perçu comme quelque chose d'esthétique. Donc, donc voilà, c'est vraiment pas un rejet. Mais en tout cas, moi, très personnellement, je m'en porte plus.
Ne plus porter de soutien-gorge, c'est tourner le dos à certaines normes esthétiques.
Oui, tout à fait. Oui, oui. Parce que quand on porte plus de soutien-gorge, en fait, le sein, il est... En fait, quand on porte un soutien-gorge, le sein, il rentre dans certaines normes. Donc, effectivement, vous allez parler plutôt de la demi-pomme. On ne voit plus si jamais on a des seins qui tombent. Quand on porte un soutien-gorge, on ne le voit plus. Donc, voilà, il va vraiment rentrer dans toutes ces normes. Et quand on le retire, on le voit tel qu'il est. Et effectivement, bah, il y a autant de seins différents que de femmes, ou de personnes avec des poitrines. Donc voilà, à ce moment-là, le sein n'est plus du tout, rentre plus du tout dans les normes esthétiques.
Gala Avandi, comment est perçu votre engagement ?
Bah, plutôt de façon positive, de manière générale.
Vous avez constaté que les divers confinements ont accéléré le mouvement nos bras. Vous avez constaté une sorte de révolution du non au soutien-gorge ?
Alors peut-être pas une révolution,
mais
on s'en rapproche, je crois. Non, mais en fait, on a vraiment vu une accélération effectivement du no-bra, parce que en fait, les femmes étaient plus confrontées au regard des autres, et donc elles ont la plupart ont décidé effectivement, enfin une partie ont décidé de retirer son soutien-gorge. Donc on s'est rendu compte en fait que c'était énormément lié au regard des autres.
Tiens, nous accueillons Audrey. Bienvenue, Audrey.
Oui, bonjour.
Alors vous avez adopté cette révolution entre guillemets du non au soutien-gorge, du no bra.
Oui, exactement. En fait, c'était pendant le confinement, le premier confinement, je me suis libérée de ce bout de tissu et ça a été une liberté totale, c'est-à-dire que j'étais confinée chez moi et en fait, je n'avais plus besoin donc de porter de soutien-gorge puisque justement, je n'étais plus confrontée, comme le disait votre auditrice, au regard des autres et ça a été extrêmement libérateur, vraiment, c'est incroyable. Et j'ai du mal maintenant à remettre un soutien-gorge quand je vais je sais pas au travail chercher mon fils à l'école, ça devient très contraignant. Donc j'espère pouvoir le laisser tomber totalement si vous voulez, mais j'ai encore ce truc qui me dit mais non, ça ne se fait pas, qu'est-ce qu'on va dire, surtout que j'ai une poitrine plutôt imposante, donc voilà. Mais moi j'ai découvert ça pendant le confinement, je vous assure, c'est une liberté totale, vraiment.
Camille Froidevaux-Métrie.
Oui, c'est intéressant que cette auditrice mentionne la taille de sa poitrine, parce que quand j'ai commencé mon enquête, moi j'avais un petit peu ce préjugé que ce mouvement concernait des jeunes, des femmes plutôt jeunes et plutôt, disons, avantagées par la nature, enfin voilà, qui pouvaient se le permettre d'une certaine façon. Et j'ai bien pu observer que beaucoup de femmes aspiraient à libérer leur sein de ce carcan de tissu, c'est sûr, mais aussi, par exemple, beaucoup de femmes aspirent à pouvoir aller nager à la piscine sans porter de soutien-gorge. C'est quelque chose qui nous montre l'autre versant de cette dynamique féministe qui consiste à libérer nos seins. Et ce qui est important, c'est tout simplement de rendre légitime, visible dans l'espace public, tout simplement la chair vivante de nos corps telle qu'elle est et nos formes de seins telles qu'elles sont.
Isabelle Motreau.
Et surtout, ce que ça rend visible quand on ne porte plus de soutien-gorge, c'est le téton.
Ah,
or, l'ennemi juré des GAFAM, etc.
C'est Google, Apple, Facebook.
Oui, le téton est petit, mais cacher tenace.
Cacher ce téton que je ne saurais voir.
Voilà, c'est plutôt le téton qui gêne.
Ce n'est que le téton.
Oui,
enfin, dire, en ce qu'il condense, effectivement, voilà, la sexualité et la maternité.
Pourquoi le téton nous dérange autant ?
Eh bien, parce qu'il est le symbole, le signal.
Le clitoris du sein.
Professeur Mimé,
c'est l'image sexuel, un sens, c'est très curieux parce que lorsque on reconstruit des femmes, souvent elles vont pas jusqu'au téton, c'est assez curieux, elles veulent le volume, c'est-à-dire l'apparence, mais pas le téton. Mais d'un autre côté, l'aspect sexuel est représenté par le mamelon. Et donc c'est quelque chose, c'est ça qu'il faut cacher, quoi. D'ailleurs, il y a des soutiens-gorge qui se rapetissent tellement que c'est qu'il n'y a plus que le téton qui est caché, quoi.
Merci beaucoup Gala Avandi et merci Audrey d'avoir appelé. Alors je vous propose d'écouter le témoignage de Marie, 48 ans, en 2021. Elle est atteinte d'un cancer et elle avait refusé une reconstruction du sein suite à une mastectomie.
C'est pas la société et c'est pas mon entourage de décider pour moi. Qu'est-ce que c'est de la féminité ? Qu'est-ce qui me rendrait féminine ou pas ? aujourd'hui, j'ai le droit de me sentir féminine, même si j'ai qu'un sein. Je pense que c'est vraiment propre à chacun, en fait, la féminité. C'est qui je suis, qu'est-ce que je suis, comment je me sens. Est-ce que moi, je me sens féminine? Je me sens féminine en pyjama? Je me sens féminine maquillée, pas maquillée? Enfin, personne n'a le droit de me dire si je suis une femme ou si je suis pas une femme, en fait. Mes copines qui ont pas de sein et qui ont choisi de rester à plat, c'est des femmes aussi. Enfin, elles se sentent femmes, c'est des femmes. La féminité ne se résume pas à une paire de seins.
Extrait du podcast de Charlotte Bien-Aimée sur Arte Radio. Alors, quelles sont les principales motivations du refus de la reconstruction après une mastectomie, Camille Freud-Vaumetry?
J'ai découvert avec étonnement que ça concernait en fait une immense majorité de femmes qui avaient subi une mastectomie. Et ce sont des femmes d'abord qui ont été très éprouvées, qui ont subi des opérations très lourdes. Il faut savoir que la reconstruction, c'est quelque chose, enfin le professeur Mimoun en parlera bien mieux que moi, de très invasif, de très lourd. Il s'agit d'aller prélever ici un peu de muscle, là un peu de veine. Et puis surtout, comme le disait très justement l'auditrice, il y a quelque chose d'insupportable dans cette idée que l'on puisse imposer à une femme l'apparence qui devrait être la sienne suite à une mastectomie. Et celle que j'ai rencontrée dans mon enquête me disait que c'était quelque chose d'absolument, d'une violence inouïe, que de ressentir une forme de... c'est comme si une fois un sein disparu en quelque sorte, eh bien c'est tout l'être de la personne qui était affectée et qui devait se reconstruire pour pouvoir redevenir elle-même.
Professeur Maurice Mimoun.
Je remercie beaucoup le témoignage de cette jeune femme. Une femme n'est pas un sein et... Autant il y a plein de femmes, parce qu'il y a quand même beaucoup de femmes qui veulent être reconstruites et qui souffrent énormément pour plein de raisons que je pourrais définir, de l'amputation, parce que c'est bien une amputation d'un sein, mais il y a ce phénomène inverse aussi, et le médecin parfois voudrait faire du bien, il n'est pas dans un mauvais état d'esprit, mais il dit « faites-vous reconstruire ». Il y a des femmes qui ne veulent pas, surtout que, effectivement, il y a différents types de reconstruction. On lit sur Internet tout et tout, il y a des phénomènes de mode. Et il est très important aussi de considérer la femme dans son ensemble. Et je dis toujours à mes élèves plasticiens, si vous reconstruisez une femme, si vous réparez un sein, il faut prendre la photo de la femme, pas du sein, il faut prendre la photo de la femme dans son ensemble. J'accorde une importance énorme à reconstruire sans détruire. Si le malheur a fait qu'une femme a un cancer du sein et qu'on a dû lui enlever un sein, c'est malheureusement le sort qui en a décidé. Si le chirurgien abîme une autre partie de son corps pour reconstruire son sein, il faut en parler beaucoup avec elle avant de le faire.
J'aimerais qu'on accueille Sophie Hoffmann, bonjour.
Bonjour Ali.
Vous êtes journaliste, autrice du podcast My Boob Story, journal optimiste de mon cancer du sein. Alors, vous apprenez que vous êtes atteinte d'un cancer du sein le 14 septembre 2020, vous avez 34 ans. Mm-hmm. Vous étiez porteuse de la mutation génétique BRCA1 qui prédispose au cancer du sein et des ovaires. Et vous devez subir une mastectomie pour éviter l'aggravation de cette maladie. Comment avez-vous vécu cette ablation du sein, Sophie Hoffmann?
Disons que dès que la chirurgienne, en fait, c'est la chirurgienne qui m'a annoncé que j'avais un cancer du sein, il a tout de suite été question d'une mastectomie être le plus serein possible. Au début, c'était tellement violent que je pouvais pas, en fait, entendre ça. Donc, on est parti, quand je suis sortie du cabinet, on est parti sur une tumorectomie, donc juste retirer la tumeur. Et en fait, j'avais bien compris de la part de la chirurgienne que c'était vraiment ce qu'il y avait de mieux pour moi de retirer ce sein. Et elle m'avait dit, vous vous endormez avec un sein et vous vous réveillez avec un sein. Et du coup, c'est quelque chose qui m'avait marqué. Donc après, en rentrant à la maison, j'en ai parlé avec Damien, mon conjoint. Et on s'est dit, c'est vraiment, de toute façon, la solution la plus sereine de retirer ce sein et de mettre une prothèse. Donc c'est le choix que j'ai fait après coup, je l'ai rappelé et elle trouvait aussi que c'était la meilleure solution. Donc il y a eu un petit temps pour accepter cette ablation, hein, c'est le mot. Mais il y a eu quelque chose d'un peu réconfortant dans le fait de me dire, bon, ça va plus être mon sein, ça va être un autre sein, mais ça restera quelque chose que je pourrais reconnaître en fait.
Comment avez-vous vécu cette reconstruction ?
Franchement, très bien. Je me suis vraiment dit assez vite que j'avais envie d'accepter cette nouvelle poitrine. Donc, ça s'est bien passé. parce que j'étais dans une démarche d'accueil en fait. Mmh. Et après j'ai même fait l'autre sein en préventif, donc en fin d'année dernière. Donc j'adore mes seins, voilà, j'aime le dire.
Camille,
ça existe.
Camille Froide-Vaumétrie.
Oui, j'ai rencontré pour mon enquête une jeune femme qui souffrait de ce même gène et qui a choisi, alors avant même d'être atteinte d'un cancer du sein et parce qu'elle avait perdu et sa mère et sa grand-mère pour ces mêmes raisons auparavant, donc de subir une double mastectomie. Le chirurgien ne lui a pas laissé d'autre choix que de la sortir d'une double reconstruction dans la foulée. Et pour elle, malheureusement, ça s'est très mal passé. Ouais, donc je tenais à le dire parce que voilà, il faut rappeler qu'on ne peut pas imposer.
La dame, je suis très contemporaine, elle n'est pas représentative. Effectivement, quand vous annoncez à une femme qu'elle a un cancer, c'est un coup de tonnerre catastrophique. Et le médecin, il a envie de lui dire derrière, on va vous reconstruire, n'hésitez pas, vous allez retrouver votre sein. En réalité, on peut pas faire l'économie du deuil. Qu'on fasse la mastectomie, reconstruction immédiate, qui dans certains cas est possible, mais il faut le dire à toutes les femmes, elle n'est pas possible dans tous les cas, et ou qu'on fasse une reconstruction différée. On peut pas faire l'économie d'un temps de tristesse. Il y a des femmes qui, d'abord, ça dépend du corps de la femme, de la possibilité de reconstruction qu'on a. Il y a différentes méthodes. Il y a des fois où on peut faire très bien, des fois où on peut faire moins bien. Il faut l'expliquer, il faut accompagner cette femme. La reconstruction mammaire, c'est pas une intervention. C'est un accompagnement pendant plusieurs mois. Et si le médecin l'accompagne pendant plusieurs mois, à un moment donné, la femme sait qu'on a fait le maximum pour elle et elle va, dans la plupart des cas, accepter son corps. Mais c'est un cheminement qui est difficile et elles sont dans ce cheminement très courageux.
Merci beaucoup, Sophie Hoffmann, pour votre témoignage. On peut écouter votre podcast My Boob Story, journal optimiste de mon cancer du sein, sur toutes les plateformes. Dans un instant, on s'intéresse à ce visible objet du plaisir qu'est le sein. Ce sera juste après Clara Luciani. Amour toujours à 10h51.
Un peu.
qu'est-ce que c'est bon. Clara Luciani, Amour toujours.
Grand bien vous fasse. Ali Rebbi. Sur France Inter.
Et ce matin, on s'intéresse au sein. Le standard vous est ouvert au 01 45 24 7000. Alors Camille Froide-Vaumétry, je rappelle que vous avez écrit « Sein en quête d'une révolution ». Pour vous, les femmes n'investissent pas suffisamment cet organe qui procure du plaisir.
Pas les femmes, non. Les hommes.
Les hommes.
Bah oui.
Oui.
C'est-à-dire que.
Mais par rétroaction
oui,
aussi.
Oui. Mais voilà, dans la vie sexuelle, les seins sont surtout faits pour exciter, donc oui. Pour surtout être regardés, pour servir d'appât. Et une fois ce rôle rempli, il y a éventuellement un petit passage dans le moment des préliminaires, si mal nommé. Et puis ensuite, on se concentre là où c'est censé se passer, c'est-à-dire au niveau génital, selon ce script sexuel dominant, très hétéronormé et très phallocentré, que voilà, une relation sexuelle réussie, c'est la pénétration d'un vagin par un pénis qui se termine par une éjaculation. Et dans cette histoire, les seins ont complètement disparu.
Mais dans la sexualité hétérosexuelle, les femmes doivent prendre en main les hommes, peut-être pour les concentrer sur cette zone-là, qui procure énormément de plaisir.
Oui, comme
vous insistez beaucoup dans votre livre sur cette question-là.
Oui, comme pour beaucoup de choses, les femmes doivent faire l'éducation des hommes, en effet. En tout cas, par exemple, les femmes qui sont en couple de femmes, les femmes lesbiennes, ont une relation à l'entièreté de leur corps qui est très très différente. Et c'est vraiment une relation sexuelle réussie pour elles. C'est l'exploration de tout le corps et notamment des seins. Et effectivement, il y a quelque chose peut-être à apprendre d'elles pour que les femmes puissent réinvestir leurs seins comme un lieu de plaisir. Parce que la libération des seins, c'est d'abord apprendre à les aimer comme ils sont, pour ensuite pouvoir les libérer avec ou sans soutien-gorge, et enfin pouvoir les investir comme ce lieu de plaisir qu'ils sont.
Que dit la science sur la stimulation des tétons, Isabelle Motreau? Cela activerait la même région du cerveau qu'une stimulation clitoridienne,
oui.
Et qui peut provoquer donc un orgasme.
Oui, oui, on s'est penché vers Pauline Verdusier, pour être exact, s'est penché sur ce sujet dans notre hors-série. Et effectivement, il y a eu une recherche enfin sur ce thème, et il est apparu que la stimulation des tétons et des seins active effectivement une zone du cerveau qui est à cheval sur celle qui se réveille,
voilà,
lors de la stimulation vaginale clitoridienne ou du col de l'utérus, enfin. Et donc on est bien sur le même fonction de stimulation qui va éventuellement jusqu'à l'orgasme, et voire même on peut parvenir à l'orgasme, on sait, uniquement par la pensée. Donc, comme quoi,
vous me regardez d'une drôle de manière, Isabelle.
Je je ne sais pas quoi dire. mais en tout cas, effectivement, ça ouvre encore des perspectives. C'est-à-dire que le corps, finalement, peut être érotisé de mille manières.
Maurice Mimoune. Moi, de manière factuelle, je peux dire là-dessus, c'est que les femmes qui ont un désir de transformation du sein, que ce soit des prothèses, que ce soit d'une diminution du sein, il y a un risque de perte de sensibilité. Donc, quand vous posez la question à la femme, êtes-vous sensible du sein? Déjà, une fois sur deux, elle comprend pas la question, hein. Faut comprendre les choses. Une fois sur deux, elle comprend pas. Alors, donc, est-ce que vous avez du plaisir pendant les rapports? Maintenant, je suis très...
Plus direct.
Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Quand vous leur dites, vous savez, dans cette technique, vous pouvez perdre la sensibilité. La plus, il y en a qui le déplorent. Et la plupart disent, ah bon, bah, tant pis. Et quelques-unes disent je me fais pas opérer. C'est ça actuellement la statistique.
Le mot de conclusion, Camille Froide-Vaumétry.
Oui, il faut aimer nos seins comme ils sont. Il faut les montrer davantage comme ils sont aussi. Et puis pour pouvoir ensuite les vivre pleinement, sereinement. Et sans doute qu'on a besoin un peu des hommes aussi pour ça. Mais ils passent pas toujours.
Merci professeur Maurice Mimoune. Votre dernier livre qui n'a rien à voir avec le sujet s'appelle Fils d'eux. C'est publié chez Albin Michel.
Merci
Camille Froide-Vaumétry. Saint en quête de libération. C'est disponible demain en poche et point. Et merci Isabelle Motreau. Le hors-série de Cosette consacré au sein est disponible en kiosque. Demain, grand bien vous fasse loisir.